Alors, cycle 2, approfondissement, la prière, le chapelet, le rosaire. Le rosaire est véritablement une prière importante pour l'Église. Elle est apparue au cours du deuxième millénaire de l'histoire de la chrétienté en Occident. Le Saint Rosaire a été promu par beaucoup de saints et beaucoup de papes. La tradition de l'Église est unanime à reconnaître les bienfaits de la prière du rosaire pour grandir dans la vie spirituelle. Paul VI disait que le rosaire est un résumé de l'Évangile, un Évangile en résumé. Dans le siècle passé, même avant, en 1883, le pape Léon XIII a promu le rosaire vraiment pour les fidèles, en rappelant le bienfait que c'était. Le pape Saint Jean XXIII, lui aussi, a été véritablement un apôtre du rosaire. Il a été un apôtre du rosaire, il a aussi été un apôtre du chapelet au Saint-Triplet, qui sont nés avant le chapelet et la miséricorde divine. Et puis le pape Paul VI, je disais, en a souligné la valeur dans sa lettre, en particulier apostolique, Marialis Cultus, le culte à la Vierge Marie, où il indiquait le lien qu'il y avait entre la Vierge Marie, l'Église, et toute la dévotion mariale. C'est une grande lettre que nous pouvons lire d'un grand pape marial. Et puis enfin, Saint Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique, Rosarium Virginis Mariae, le rosaire de la Vierge Marie, que je vous inviterai à lire, retrace tout ce parcours de l'Église sur le chapelet et lui-même va y rajouter sa touche personnelle en faisant apparaître les quatrièmes mystères, c'est-à-dire les mystères lumineux, et nous en parlerons. Nous savons aussi que Benoît XVI a été plusieurs fois interviewé sur la prière du rosaire. Lui-même disait qu'il avait du mal à le dire quand il était cardinal, mais il le disait. Et puis le pape François, dont nous connaissons la place qu'il accorde à la dévotion populaire, c'est ce qu'il disait dans la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, rappeler la valeur des prières populaires et le savon, sa grande dévotion à la Vierge Marie, puisqu'il est allé à la basilique Sainte Marie Majeure dès le début de son pontificat, confier son pontificat, qu'il a confié son pontificat en particulier à notre femme de Fatima, et qu'il a une grande dévotion à Sainte Marie qui défait les murs. Donc on peut se penser qu'il prie aussi le chapelet. Ça, c'est pour l'enseignement récent de l'Église sur le chapelet. Nous voyons aussi que dans l'histoire des saints, les saints ont promu le rosaire. On peut penser d'abord, reprendre les papes, grand saint qui est le pape Jean-Paul II, un prêtre du Rwanda, non du Cameroun, je me souviens de son témoignage, j'étais encore séminariste, avait vu le Saint-Père parler, le Saint-Père Jean-Paul II, et à un moment important dans l'histoire de l'Église d'Afrique, le Saint-Père devait avoir des discours, et avant le discours, il était assis dans son coin, et il priait le chapelet. Ça avait beaucoup marqué ce prêtre, qui disait « Ce jour-là, j'ai compris que c'était quelque chose de très important, puisque le pape, au moment de prendre la parole pour un discours important, ce qu'il n'a pas trouvé de mieux à faire, puis il avait du retard pour dire le discours, c'était de rester dans son coin et de prier le chapelet. Ça fait réfléchir. On sait que Padre Pio a accordé beaucoup d'importance au chapelet, que le Seigneur lui faisait des grâces particulières de dire des quantités très impressionnantes de chapelet durant sa journée. Nous avons d'autres témoignages de grand saint Mario du XXe siècle. Jean-Paul II, lui, je disais, il avait pris à des moments importants, mais même le distribué. Il a distribué un chapelet à la femme de Gorbatchev quand elle est venue au Vatican. Vraiment l'apôtre du chapelet. De la même manière, Maximien Kolb priait le chapelet. On dit qu'il priait le chapelet sous sa mure, sous son scapulaire, le dessus qui couvre les épaules, dont je ne sais plus le nom, que portent les franciscains conventuels. Le tissu, en dessous, il récitait sans cesse son chapelet, voilà, à l'Immaculée. Et puis, dans notre terre de Vendée, dont nous fêtons les 300 ans, Père de Montfort, Saint-Louis Marie de Montfort, qui a été un apôtre du chapelet, qui a écrit même un livre sur le Saint-Rosaire. Voilà, le Saint-Rosaire. Et Jean-Paul II, dans sa lettre, encore une fois apostolique, parlait du bienheureux Bartolo Longo, un autre saint, qui a été véritablement l'apôtre du Saint-Rosaire. On a dit de lui qu'il avait dit « Qui propage le rosaire est sauvé. » Qui propage le rosaire est sauvé. Un grand saint qui a fait son apostolat par le rosaire. Je reviens sur Jean-Paul II. Jean-Paul II, quand il était, avant d'être séminariste, a été étudiant, jeune. Il a fait partie de différentes confréries. Il a fait partie, entre autres, d'une confrérie qui s'appelait le rosaire vivant. Voilà. L'imitation de la vie de Jésus, le rosaire vivant. Voilà. Et puis aussi, on sait que dans l'Église, les grands moments de l'histoire de l'Église et récents, l'importance du chapelet. Alors on sait très bien que le rosaire a permis au peuple chrétien, à des pays entiers, des villes entières, d'être protégés des fois par des invasions barbares, de garder la foi catholique, alors qu'ils auraient pu être colonisés par d'autres types de foi, par exemple musulmanes ou autres. Non, c'est la prière du chapelet, du rosaire, qui a permis à des chrétiens d'être soutenus, d'être protégés par la Vierge de manière particulière. On voit aussi que dans les apparitions mariales qui ont eu lieu ces deux derniers siècles, où Marie a intensifié sa présence de manière particulière au sein de l'Église, et d'une manière très spéciale en France, hein, on est un pays qui a reçu énormément d'apparitions mariales, c'est un don de Dieu. Marie est souvent apparue avec le chapelet, disant que c'était sa prière préférée. On le voit de manière particulière en 1950, par là à Lourdes. La Vierge est apparue et a appris à Bernadette à prier le chapelet, apprendre à faire le signe de croix, à prier le chapelet. De la même manière, à Fatima, en 1916, la Vierge qui apparaît, qui dira « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Voilà, prier, prier pour les pécheurs, prier particulièrement, et on a su en fait que certainement la prière mariale et le rosaire, la confier sa vie au cœur immaculé de Marie, a fait tomber le bloc soviétique. Donc ça a une puissance extraordinaire. Dans l'histoire de la chrétienté, dans l'histoire du monde, cette prière. Cette prière qui a été bien souvent recommandée par les papes. Alors il est bon de voir un petit peu que l'histoire du chapelet, c'est une prière pauvre, simple, mais pas simpliste, et très profonde. Dans l'histoire de l'Église, les moines, les hommes du désert, les premiers moines sont allés dans le désert pour véritablement se mettre à la suite de Christ et écouter la parole de Dieu, vivre le combat spirituel. Puis petit à petit, le christianisme s'est implanté dans les villes. Petit à petit, il s'est structuré. L'élite à l'époque, c'était les moines. Et ça s'est développé pendant tout le premier millénaire. Et ces moines étaient des hommes érudits qui ont transmis la foi à travers l'art, la liturgie, la théologie, la philosophie et surtout l'étude de la Sainte Écriture. C'était des érudits, ils connaissaient l'Écriture et eux-mêmes priaient les psaumes, les fameux 150 psaumes qu'on trouve dans l'Écriture. Et bien souvent, la partie où les moines priaient était moins décorée que la partie pour le peuple de Dieu qui avait besoin de plus décoration parce que le peuple de Dieu n'était pas aussi érudit, aussi formé, ne savait pas toujours lire. Donc il fallait des vitraux, il fallait des fresques, il fallait des images pour que le peuple de Dieu puisse connaître la vie de l'Évangile, puisqu'ils ne pouvaient pas forcément le lire. Et donc ils ne pouvaient pas toujours prier les psaumes parce qu'ils ne savaient pas les lire, ce que faisaient les consacrés, les moines. Et donc on a mis en place le chapelet. Et au départ, les trois mystères, joyeux, douloureux, glorieux, qui correspondent à 150 dizaines, 150 « Je vous salue Marie » correspondent aux 150 psaumes, mais pour les pauvres. Voilà, c'était des roses qu'on donnait à Marie, d'où le rosaire. Et on priait des paroles courtes, mais qui étaient le résumé de l'Évangile et qui nous apprenaient à connaître la vie de Jésus et à l'imiter, sans forcément lire l'Évangile ou les psaumes parce qu'on ne savait pas le faire. Et donc l'Église, petit à petit, a développé cela. et a développé cela, j'allais dire, en forme de paraliturgie. Alors, ce n'est pas la liturgie du Père Para. La paraliturgie, c'est une liturgie qui prépare à la grande liturgie qui est l'office, le baptême, les sépultures et par excellence l'Eucharistie, qui la prépare, qui l'intensifie et qui la continue, cette paraliturgie. Et donc on va voir que l'Église, c'est une prière pour les pauvres, mais qui fait rentrer dans toute la vie de l'Église, dans toute la vie de l'Évangile, et qui s'est développée aussi après pour les intellectuels. Puisque un grand ordre mendiant, dont nous avons un exemple ici, qui est Saint Dominique, c'est vraiment l'ordre des prêcheurs, hein, c'est les champions de la théologie. Un des membres de l'ordre éminent, c'est Saint Thomas d'Aquin. Et ils ont le rosaire. Ces grands intellectuels étudiaient la parole de Dieu, la grande théologie, mais passaient du temps à dire le chapelet, pauvrement. Et c'est encore les dominicains qui organisent le pèlerinage du rosaire, aujourd'hui. Voilà. Donc cette prière s'est répandue dans tous les milieux comme étant une prière sainte pour s'unir à Dieu. Voilà. Et il est bon de creuser cette prière du rosaire, ces roses que nous prions à Marie, qui sont un condensé de l'Évangile, un résumé de l'Évangile, de voir quel est l'enjeu spirituellement, quel est l'enjeu théologiquement, quel est l'enjeu anthropologiquement, liturgiquement et comment le vivre. Alors je vais d'abord commencer peut-être par spirituellement en disant comment est constitué le rosaire. Le rosaire, on le tient sur un chapelet. Généralement, nous avons des petits chapelets, nous avons 5 dizaines. Voilà. Le grand rosaire, c'est 150. Maintenant que Jean-Paul II y ajoutait le mystère lumineux, c'est 200. Alors, on n'est plus dans tout à fait la comparaison des psaumes, mais c'est pas grave. Ce chapelet est composé d'une croix. Voilà. Une croix, faire un beau signe de croix, vénérer la croix. Il est constitué d'un credo. On commence par le credo. Celui qui prie le rosaire rentre dans le cadre de la foi. Voilà. C'est vraiment une prière ecclésiale puisqu'il prie la foi de l'Église. Il va contempler quelque chose dans la foi de l'Église, dans le credo. Voilà. Et puis, nous disons à notre Père, nous disons 3 « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père ». Donc, il n'y a pas de plus grande prière que le « Notre Père », c'est celle que le Seigneur apprend dans l'Évangile quand les apôtres lui demandent « Seigneur, apprends-nous à prier ». Il leur donna le Notre Père. Aujourd'hui, on ne va pas faire un enseignement sur Notre Père, on en fera un en son temps. Sachez que le Notre Père est constitué de 7 demandes et que la hiérarchisation dans l'ordre des demandes est importante. Elles commencent par Dieu, elles finissent par nous. Dedans même, il y a notre foi, notre espérance et notre charité. Et après, nous demandons des choses ordonnées à cela. Et on commence par le Notre Père, parce qu'il n'y a pas de plus grande prière, même le Je vous salue, Marie n'est pas aussi grand que le Notre Père. C'est la prière du Seigneur qui nous a donné. Puis nous disons 3 Je vous salue Marie. Alors là, les traditions sont variées. J'en propose une. C'est Marie qui nous apprend la foi. Marie qui nous apprend l'espérance. Marie qui nous apprend la charité. Donc c'est à vivre du kit du baptisé, les vertus théologales. Voilà. Nous terminons par la doxologie, ce que nous faisons dans les offices à la fin des psaumes, ce que nous faisons à la liturgie, ce que nous faisons à différents moments, le gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, parce que la contemplation du rosaire amène à la Trinité. Le but, c'est d'aimer Dieu. Si je m'arrête là-dessus, le but, c'est d'aimer Dieu. C'est que le rosaire a mauvaise réputation. Si je le disais autrement, et ne vous sentez pas vexé, on dirait c'est une prière pour les vieux qui radotent. C'est-à-dire, on voit souvent des personnes âgées dire leur rosaire, mais pas des jeunes, et on a l'impression qu'ils radotent et qu'ils prient en mitraillette. Je vous salue Marie Canada, je vous salue Marie Canada, je vous salue. Et ça n'a pas la cote, c'est perçu comme ça. Perçu comme ça, et pourtant ça ne l'est pas. C'est une véritable prière qui peut amener à une union mystique très grande. Si je dis cela, c'est parce que Jean-Paul II avait dit dans sa lettre au seuil du troisième millénaire, que les chrétiens devaient redécouvrir l'art de la prière. Et que le troisième millénaire sera le millénaire de la... C'est moi qui le rajoute, le millénaire de la vie mystique. Et Jean-Paul II proposait, en particulier, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, pour dire vraiment, il faut se mettre à l'école des grands saints pour redécouvrir l'art de la prière, qui a tout un patrimoine dans le christianisme de la mystique. Et que nous voyons parmi les jeunes, aujourd'hui, il est bon d'aller faire son shopping spirituel dans l'ésotérisme, dans le bouddhisme, dans les sagesses, mais la perception qu'on a du christianisme, c'est qu'au mieux, c'est ringard et moralisateur, c'est des rites, mais bon, c'est pas transcendant. Et quand on voit le rosaire comme quelque chose, pardonnez-moi, pour les personnes âgées qui radotent, on se dit, ben alors c'est pas très très transcendant tout ça. Et pourtant, le christianisme a véritablement quelque chose à apporter de la mystique, et que le rosaire, ça peut être un moyen proposé humble pour devenir un mystique. Tout le monde est appelé à la vie mystique. Donc voilà, on va, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, vers l'union à la Trinité, qui est le but de la vie chrétienne. Alors ce chapelet, il est composé après de des dizaines, cinq dizaines, qui vont méditer la vie de Jésus. Je m'arrêterai d'abord sur un « Je vous salue Marie », qui est une prière à la fois biblique et une prière à la fois de la grande tradition de l'Église. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, ou réjouis-toi Marie, comblée de grâce. » Ça fait écho à l'Annonciation, à l'ange Gabriel qui vient saluer la Vierge Marie. Voilà, première chose. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Ça fait écho à la cousine Élisabeth qui reçoit la mère de son Seigneur et qui s'exclame. L'épisode de la Visitation en Luc. Donc un autre passage biblique. Sainte Marie, Mère de Dieu, ça fait écho au dogme de Marie, Mère de Dieu, la Théotokos, dans la grande tradition de l'Église, le plus grand dogme marial. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, c'est tout le peuple de Dieu qui prie la Mère du Seigneur, parce que le peuple de Dieu la reçoit au pied de la croix, Jean 19. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Tous les disciples chrétiens la reçoivent. Tous les chrétiens de siècle en siècle ont prié comme leur mère jusqu'à leur mort, parce que Marie est celle qui prépare à aller au ciel. Elle est, comme le disent les orientaux, la porte du ciel. Donc on voit à la fois la tradition biblique et la grande, enfin voilà, tout l'héritage biblique et la grande tradition dogmatique et la piété mariale jusqu'à la fin de notre vie qui est inscrit dans le « Je vous salue Marie ». Donc c'est grand. C'est grand parce que cette prière-là n'est pas une prière mariale. C'est une prière christocentrique, tournée sur le Christ avec Marie, ce qui est différent. Le pape Jean-Paul II, dans sa lettre Rosarium Virginis Mariae, explique cela effectivement en disant « Si l'Orient a développé la prière du cœur, basée là sur la respiration ou sur le battement du cœur, en disant cette parole de répétition pour répondre au commandement du Seigneur qui consiste à dire, avec saint Paul, vous prierez sans cesse, priez sans cesse. » Et donc les orientaux, nos frères orthodoxes, disent cette prière du cœur, qu'on appelle comme ça la prière du cœur, « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. » Ils le récitent toute leur vie et il y a une vraie union avec Dieu qui se crée comme ça, une union mystique. Très grande, on pourrait lire le récit d'un pèlerin russe qui raconte cette histoire d'un homme qui découvre cette prière. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, disait « Pour l'Occident, notre prière du cœur, c'est le chapelet. Parce qu'au cœur du « Je vous salue Marie », nous disons le saint nom de Jésus. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus. » Il y a comme une montée biblique qui va vers Jésus, qui est le sommet, qui après qui redescend en prière de confiance. Voilà. C'est le sommet, et donc il faut avoir cela dans la tête de cette intelligence de foi, que le chapelet est une prière christocentrique, le « Je vous salue Marie » est une prière christocentrique. Ça consiste à contempler Jésus avec Marie. Parce que Marie, comme le disent tous les papes, est le modèle de celle qui a médité la parole de Dieu, le modèle de la contemplation, de la docilité au Saint-Esprit, celle, on va voir, qui conserve toute la foi, qui qui nous aide à persévérer, qui nous protège et qui nous garde des hérésies. Donc, le « Je vous salue Marie » christocentrique, et nous méditons dans ce « Je vous salue Marie » dans ces dizaines, les mystères de la vie de Jésus. Voilà, je l'ai dit, je les nomme, les mystères joyeux. Alors, on aurait pu prendre d'autres mystères. L'Église, dans sa tradition, aurait pu prendre plein d'autres mystères. Jésus qui guérit le paralytique, Jésus qui pardonne à Pierre le reniement, etc. La multiplication des pains, on peut multiplier. Mais non, l'Église a discerné, voilà, dans la piété, avec le temps, avec l'aide des papes et la piété populaire, des événements un peu comme centraux, où là, nous est donné quelque chose de fondamental pour notre foi. Donc nous avons les mystères joyeux. Je m'arrête là-dessus en disant, c'est ça la joie chrétienne. Si nous cherchons la joie, où est la vraie joie? Contemplons les mystères joyeux. Dieu nous enseigne sur ce qu'est la vraie joie chrétienne. Voilà. Et ce n'est pas du sentiment, rentrons dans les vraies joies, dans la vraie joie chrétienne. Mystères joyeux qui sont l'Annonciation. Voilà. L'ange qui vient dire à Marie qu'elle va être la mère du Seigneur. Un des fruits de ce mystère, il y en a plusieurs, c'est l'humilité. Je suis humble servante du Seigneur. L'acceptation à la volonté divine, la docilité au Saint-Esprit, l'écoute de la parole de Dieu, la disponibilité. Voilà. C'est-à-dire que quand nous contemplons ce mystère, nous apprenons de Marie à recevoir des grâces d'humilité, de disponibilité, d'écoute de la parole. À sa façon, méditer la vie de Jésus, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, nous donne ses qualités. Marie va nous former comme le Christ. Nous allons être formés. Je vais y revenir là-dessus. Mystère de la Visitation, qui est un mystère où Marie va voir, une fois ayant reçu cette parole, va voir sa cousine qui est déjà enceinte car rien n'est impossible à Dieu. Mystère de gratitude, elle va dire « Mon âme exalte le Seigneur », ce grand cantique, le Magnificat. Mais elle va aussi s'occuper de sa cousine, mystère de charité, de partage. Alors c'est, en fait, c'est la charité fraternelle, c'est la gratitude, voilà, c'est la visite, c'est l'accueil. On peut aussi s'en servir, méditer ce mystère pour l'évangélisation. Comment je vais voir mon frère? Ou comment je reçois mon frère? De la même manière, la nativité, c'est la naissance, c'est le Verbe fait chair. Mystère d'adoration par excellence, de joie dans la pauvreté. Voyez, joie dans l'accueil, joie dans le partage et le service, joie dans la pauvreté. La richesse est donnée dans la pauvreté, le Christ dans la crèche. Le Verbe fait chair, mystère de joie, d'adoration, de silence, c'est dépouillé. On se tait, on contemple. Le mystère joyeux de l'offrande, présentation de Jésus au temple, tout jeune, on est offert avec Jésus par Marie à Dieu. Voilà. Et mystère de joie qui intègre la croix. Hein. Le vieillard Siméon, qui dira « Un glaive te transpercera le cœur ». Voilà, la croix est déjà pointée pour Marie, et ça veut dire, nous, il y a la joie, profondément, mais elle n'est pas béate, il y a une traversée. Et en disant aussi que Jésus sera si de contradictions qu'il en relèvera certains, et d'autres non, qui sera incompris, etc. Voilà, une joie qui n'est pas comme selon le monde. Les vraies joies chrétiennes sont là. Pas de joie sans la croix, des joies qui ne sont pas selon du monde. Des joies dépouillées, des joies dans le service, dans l'accueil, des joies de disponibilité, pas selon notre plan. Et puis encore le cinquième mystère, Jésus qui a 12 ans, qui va au temple et qui préfère tout, et qui préfère Dieu à tout plutôt. Ne savez-vous pas que je devais dans la maison de mon Père, la joie de l'absolu, la joie de l'enseignant, celui qui reçoit la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu des rabbis et qui pose des questions, voyez, qui veut faire la volonté du Père. Voilà. Donc là c'est le mystère de joie. Les mystères douloureux, alors je vais intégrer les mystères lumineux maintenant, qui sont la vie, on va dire, publique de Jésus, qui sont le baptême, Cana, donc ça c'est des événements très précis, le baptême c'est la théophanie, on voit Dieu le Père parler, le Saint-Esprit se donner sous forme de colombe, et le Christ qui est là, le Fils, théophanie, c'est le mystère baptismal, de filiation par excellence, voilà. Donc public, notre vie publique commence, pareil, par le fait que l'on est fils de Dieu, voilà, prendre conscience que la Trinité nous habite, qu'on a été choisi, qu'on est envoyé. Cana, le premier miracle public du Christ, nous dit Saint Jean chapitre 2, qui est un mystère nuptial. L'époux c'est le Christ, dira Jean-Baptiste. À qui appartient l'épouse ? En Jean 3. Et l'ami est à côté, il entend le bruit, la voix de l'époux, il en est tout heureux. Mais en même temps, on peut dire, ces mystères lumineux sont des mystères sacramentels, le baptême, Cana, le mariage, la prédication évangélique, troisième mystère, qui n'est pas précis, mais qui englobe tous les gestes du Christ et toute sa proclamation, tous ses pardons, ben, ça peut être considéré comme la mission de la confirmation. On est envoyé en mission. Quatrième mystère, la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Un mystère de lumière dans la vie publique, la place de la prière. Pour les consacrés, c'est véritablement le mystère lumineux de la prière. C'est pour ça qu'on a entre autres l'oratoire de la transfiguration. On monte sur la montagne, on fait silence, on écoute Dieu, et Dieu nous parle dans sa parole, et Jésus, qui est le centre de la parole, accomplit les Écritures, et c'est pour ça qu'à côté il y a Moïse et Élie, qui sont la loi et les prophètes. Mystère de lumière. Donc pour nous, pareil, c'est la place de l'Écriture ou la vie consacrée, les sacrements. Et la lumière par excellence, l'Eucharistie, cinquième mystère, la lumière de la lumière, source de la lumière. Voilà, donc on a baptême, mariage, c'est une interprétation, mais baptême, mariage, confirmation, vie consacrée, Eucharistie, sacerdoce. La pénitence, les sacrements des malades, se trouvent plus dans les mystères douloureux. Ça, c'est toute notre vie commune, voilà. Les mystères lumineux, les mystères douloureux qui expriment la souffrance rédemptrice, mais notre association aussi à la souffrance du Sauveur, on va y venir tout à l'heure, et qui commence par un mystère particulier qui est l'agonie du Seigneur dans le jardin des Oliviers, mystère obscur par excellence, puisque si la lumière brille dans les ténèbres, nous dit saint Jean, et que les ténèbres ne l'ont pas arrêté, là les ténèbres sont très épaisses, et semble écraser celui qui est la lumière, qui saigne des gouttes de sang. Et c'est un mystère qui nous est caché, qui est complètement indescriptible pour nous, sauf une expérience mystique, nous le faisons dans la foi, mais qui est premier pour montrer qu'il s'agit là d'un combat du bien contre le mal, contre les forces obscures. Et ça va éclairer, ou du moins ça va éclairer mystérieusement tout le reste de la souffrance du Christ. Mystère de l'agonie. Donc il est premier. C'est d'abord un combat spirituel, avant d'être un combat dans la chair. Mystère de la flagellation, c'est tout l'homme. Alors le mystère de l'agonie, c'est le redressement de la volonté de Adam qui a désobéi à Dieu. Jésus dira, Père, non pas ma volonté, mais la tienne, mystère d'obéissance. Et voyez, l'obéissance qui ouvre à la croix. C'est ce que dira Paul dans Philippiens, Christ obéissant, obéissant jusqu'à la croix et à la mort sur la croix. Voilà. Comment cela ? La flagellation, qui est la meurtrissure dans le corps, à travers le physique, les coups, les crachats, les coups de poing, le Christ qu'encaisse, et qu'en même temps un mystère de guérison pour celui qui le contemple, qui peut être blessé dans son corps par l'hédonisme, par la torture, par la maltraitance. Parce que, comme le dit Isaïe, par ses blessures, nous trouvons la guérison. J'en reparlerai. Méditer les mystères nous guérit. Par ses blessures, nous trouvons la guérison. Mystère, troisième mystère, le couronnement, donc la blessure du corps, la flagellation. C'est ça le fruit, la guérison, entre autres de la sensualité, mais pas que ça. De toute forme de blessure du corps, de mépris du corps. La flagellation, la crucifixion, c'est l'orgueil humain qui s'est placé au-dessus du Créateur, c'est la créature qui se moque du Créateur en le couronnant d'épines. Et le Créateur fait œuvre d'humilité en se taisant. Il pourrait pu écraser d'une parole ou d'un cil sa créature qui l'humilie, ne dit rien. Donc là, c'est encore plus profond que l'obéissance, c'est réapprendre l'humilité. C'est les blessures de l'orgueil, les blessures intérieures de l'ego. Vous voyez, l'obéissance va conduire à être dompté dans sa chair, à être guéri dans sa chair, est guéri dans son âme, dans son ego. Et pour cela, il faudra du temps. Et le quatrième mystère, c'est le portement de croix. C'est la persévérance. C'est pas une persévérance victorieuse, une persévérance un peu à la Superman, puisque le Christ tombe de la croix plusieurs fois en portant la croix et qu'il demande de l'aide. Mais comme nous dit l'Écriture encore en Saint-Luc, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez le salut. Et donc, c'est un mystère quelque part où une fois qu'on a compris que la souffrance rédemptrice est guérissante avec le Christ, offerte au Christ, ben, il faudra persévérer sur ce chemin pour être guéri jusqu'au bout, être reconstruit. Don de soi, persévérance dans le don de soi, jusqu'à le don total de sa vie. Voilà le mystère douloureux par excellence, la mort du Christ en croix qui donne sa vie. Thomas d'Aquin le dit, la passion du Christ est le lieu où nous connaissons le mieux l'amour de Dieu pour nous. Voilà. Mystère d'amour par excellence, où Dieu pardonne les péchés, où Dieu se donne, où Dieu ouvre la porte, le voile du temple est déchiré, et l'accès à Dieu est redonné. Mystère de la souffrance rédemptrice, et mystère glorieux, premier mystère glorieux, le Christ ressuscité, Paul dira, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, c'est premier. Voilà, présence du Christ ressuscité au milieu, donc c'est une joie de gloire. Voilà. Mystère, deuxième mystère glorieux, l'ascension du Christ, mystère d'espérance, Jésus qui dira en Saint Jean à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Dieu, vers mon Père et votre Père et mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà, mystère d'espérance, le Seigneur nous attend, il intercède pour nous, il est notre avocat. Troisième mystère, glorieux, la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Et nous voyons dans ces trois premiers mystères glorieux, à nouveau les vertus théologales, la résurrection comme le mystère de la foi, le don de la foi. Notre foi repose sur le Christ ressuscité. L'espérance, la vertu théologale d'espérance, c'est que le Christ nous aide à avoir les yeux fixés au ciel. Il est monté au ciel. Et le, donc, vertu d'espérance, vertu de charité, le don par excellence, c'est pas une activité humaine, la charité, c'est un don surnaturel qui est infus en nous par le Saint-Esprit dans notre âme, depuis le baptême et même des fois donné avant. Ben, c'est le don du Saint-Esprit. Foi, espérance, charité, voilà. À ces trois mystères glorieux se rajoutent deux autres mystères glorieux qui sont l'espérance de l'Église. Marie représente l'espérance de l'Église, voilà. Elle est l'icône de l'Église qui prie, elle y est associée. L'Assomption, Marie qui monte en son corps et en son âme au ciel, dogme de l'Assomption 1950. Et donc Marie, quelque part, montre ce que nous serons un jour. La Théotokos est montée en corps et âme au ciel. Un jour, à la résurrection des corps, nous serons au ciel, corps et âme au ciel. C'est notre espérance. Nous serons dans la gloire de Dieu. Le Christ qui est glorieux, un jour, nous serons aussi dans sa gloire, de cette manière-là. Donc c'est notre espérance, c'est l'espérance de toute l'Église, et c'est aussi la grâce de la bonne mort. On dit que Marie, Notre-Dame de l'Assomption, la grâce à demander, là, c'est la bonne mort. Autant pour la Pentecôte, le don de la foi, la résurrection à demander, l'espérance de regarder vers le ciel à l'ascension, la mission, l'amour et la mission, l'évangélisation au moment de la Pentecôte. Pour l'ascension, c'est la grâce de la bonne mort. Et dans la vie chrétienne, dans la grande tradition de la vie chrétienne, les chrétiens se préparaient le soir à la mort. Et Notre-Dame de l'Assomption, on l'a pris pour ça, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, dôme de l'Assomption. Et enfin, le couronnement de Marie, Marie qui est couronnée par Dieu, c'est-à-dire qui a une place particulière dans le dessein salvifique de Dieu, Marie qui est dispensatrice des grâces. Voilà, c'est comme ça, on l'appelle médiatrice de toute grâce. Et elle participe de manière particulière, nous disent les papes, à donner la grâce. Donc quand nous l'invoquons, la grâce nous est donnée d'une manière particulière. On le voit déjà dans les noces de Cana, où Marie va dire « ils n'ont plus de vin ». Elle intercède auprès d'eux, auprès du Christ pour eux, et le Christ va hâter le miracle. Voilà, mon heure n'est pas encore venue, mais je vais quand même faire quelque chose. Donc on voit ça, ces mystères-là. Je disais, c'est christocentrique. Le « Je vous salue Marie » médite la vie de Jésus. Et donc tous ces moments de la vie de Jésus, jusque dans l'entrée dans la gloire, disent quelque chose du mystère pour nous. Ces mystères-là disent la vie de l'Évangile. Voilà. Donc celui qui les médite, il médite l'essence de l'Évangile. Donc au Moyen-Âge, quelque part, on ne savait pas lire les Écritures, mais on méditait l'Évangile ainsi. La finalité d'une dizaine, c'est le gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, parce que méditer un mystère de la vie du Christ, c'est aller vers la Trinité. Thérèse d'Avila a voulu aller à la Trinité sans passer par le Christ un moment. Elle le reconnaîtra dans ses écrits en disant « j'ai fait une erreur ». Parce que c'est le Christ qui est la porte. Il faut toujours passer, elle dira, dans l'humanité du bon Jésus. Parce que C'est en méditant la vie de Jésus qu'on a l'accès au Père et à l'Esprit Saint. Donc cet accès-là, en méditant la vie de l'enfance, l'âge adulte, le ministère, la douleur, la gloire du Christ, nous allons à la Trinité. Et c'est le sommet de la dizaine. Et généralement, nous chantons la doxologie en français ou en latin en disant « Gloria Patri et Filio et Spiritui et Sancto ». Voilà, c'est le sommet. Parce qu'effectivement, contempler le Christ nous amène à l'union à la Trinité. Voilà. Alors, ça c'est pour spirituellement comprendre les choses. Donc on voit bien que le rosaire n'est pas une prière mariale, mais une prière christocentrique avec l'aide de Marie. Je rajoute que cette prière-là, qui est puissante, qui est paraliturgique, a des impacts, je disais, sur la liturgie. Et oui, on va prendre des exemples concrets. Je suis en train de méditer le quatrième mystère joyeux, qui est la présentation de Jésus au temple avec Marie. Je le prie et je vais à la messe. Pendant l'offertoire, je peux me souvenir de ce que j'ai prié. Marie qui porte l'enfant Jésus à Dieu. Ben pendant l'offertoire, le prêtre porte le pain à Dieu pour l'offrir et qui va devenir le Christ sacrifié. Et je peux m'offrir avec Marie. Et quand j'ai reçu l'Eucharistie, je peux dire aussi au Seigneur, je continue à m'offrir. Quand nous méditons la flagellation du Christ, les péchés, les blessures, nous recevons à l'Eucharistie le Christ. Nous recevons à l'Eucharistie le Christ. Et je peux méditer après avec le chapelet, après ou avant. Jésus, je touche ta chair, blessée et glorifiée, par tes blessures, je suis guéri. Donc on voit le chapelet prépare à l'Eucharistie. Le chapelet prépare à l'écoute de la parole. Premier mystère joyeux, Marie qui reçoit la parole et qui dit qu'il me soit fait selon ta parole à travers l'ange. On peut se mettre dans cette disposition pour entendre la parole de l'Évangile, le Nouveau ou l'Ancien Testament, lu, proclamé à la messe, et d'avoir cette attitude intérieure, qu'il me soit fait selon ta parole. Et garder cela après. Donc on voit que le chapelet prépare à l'Eucharistie et permet de continuer. D'une autre manière, on peut très bien prier le chapelet devant l'adoration eucharistique. Et quand je dis cela, des objections ont été faites en disant « Mais non, parce que prier Marie, c'est une chose, prier Jésus, c'est autre chose. On ne confond pas les deux. » Oui, mais non. Nous prions « Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni, dans l'adoration, présent corps, âme et divinité, avec Marie qui nous aide à prier. » Avec Marie qui nous aide à prier. Donc on peut très bien prier le chapelet, qu'on a bien compris que le cœur du chapelet, c'est de regarder Jésus. On peut le faire avec Marie. Et de fait, dans la présence eucharistique, invisiblement, il y a les saints. Il y a les anges. Il y a la Vierge Marie. Alors je continue. On voit en quoi c'est une prière liturgique. C'est une prière qui va donner la couleur de la semaine. Généralement, les mystères joyeux sont priés le lundi et le samedi. Le samedi, par excellence, c'est le jour marial. Les mystères douloureux sont priés le mardi et le vendredi, qui sont des jours d'ascèse, de méditation du Christ. Le jeudi, c'est le mystère lumineux, qui nous fait penser au mystère des mystères lumineux, l'Eucharistie. Le jeudi, c'est la scène. Et les mystères glorieux sont priés le mercredi et le dimanche. Et nous savons que le dimanche, c'est la dièse dominée, le jour du Seigneur ressuscité. On peut colorer liturgiquement sa journée par le chapelet, par le mystère en question, par les mystères en question. On voit, on est dans la paraliturgie, ça nous aide, ça nous prépare. Ça a des enjeux anthropologiques. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est de la répétition. Alors ce n'est pas de la mitraillette, comme je disais, « Et je le ferai dans l'entraînement, je vous salue Marie-Claire Grasse, etc. » Mais nous avons besoin, la répétition permet l'imprégnation. L'imprégnation permet la transformation. Répéter les « Je vous salue Marie » nous permet de nous imprégner. Et au niveau spirituel, quand c'est bien vécu, un « Je vous salue Marie » lentement dit n'est jamais une répétition. C'est toujours du neuf, dirait Maximilien Kolbe. Et cette répétition nous fait rentrer dans une imprégnation. C'est la première chose. Et que c'est beaucoup plus facile d'être imprégné par cela que sans arrêt se poser des questions en lisant plein de choses où finalement nous cherchons mais nous ne sommes pas imprégnés. Pour cela, il faudrait mieux répéter un seul verset de l'Écriture. Et par le « Je vous salue Marie », médité dans un mystère particulier, nous pouvons rentrer dans l'imprégnation et cette imprégnation est transformante. Donc ça a vraiment une qualité anthropologique, voilà, une valeur humaine. Maintenant aussi, les mystères de la vie de Jésus, c'est mes mystères, c'est nos vies. Nos vies ont une enfance spirituelle, nos vies ont des joies, nos vies sont offertes, nos vies ont des temps de silence et d'offrande et d'accueil et de partage, nos vies ont des moments publics d'annonce, des temps de silence d'écoute de la parole de Dieu sur la montagne. Nos vies sont aussi des douleurs, des choix à dire « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Nos vies ont besoin d'être reconstruites dans le corps et dans le cœur et dans l'âme. Nos vies sont offertes jusqu'au bout, et nous voulons aller jusqu'au bout. Nos vies tendent vers la gloire. Donc on peut mettre toute sa vie dans la méditation du mystère, à travers Jésus, parce que Jésus a tout assumé. Donc là on voit, ça rejoint la vie de chacun de chacun. Donc vraiment c'est important. Alors comment faire? Le pape Jean-Paul II propose différentes choses, mais la première d'abord, c'est que pour ne pas que le chapelet soit une mitraillette, il faut le dire lentement. Et la grande place du chapelet à accorder, c'est le silence. Je pense que pour nous, les jeunes générations, le chapelet peut être un moyen simple de rentrer dans la vie mystique, mais à travers, en comprenant que ce chapelet a une dimension de silence. Et Jean-Paul II dira même que le chapelet prolonge et prépare à la lectio divina, à l'écoute de la parole. Parce que, dans le silence, nous annonçons à chaque fois dans le chapelet un mystère, à travers en disant, par exemple, « Mystère douloureux, le portement de croix ». Et si possible, nous nous tournons vers une image de ce portement de croix en commençant ce mystère-là. Et si possible, nous disons un verset de la parole de Dieu. « Et Jésus, qui est sur la croix, regarda sa mère. » Voilà, etc. On imprègne cela dans le silence. Et une fois qu'on a commencé par cela, on va rentrer dans la démarche de Dieu, notre Père qui est aux cieux, etc. Et lentement. Donc on voit, c'est une vraie école de méditation, comme à la manière de la lection, et vraiment de contemplation, parce qu'on peut être suspendu et Jésus. Et pour être plus suspendu et se rappeler cela, le pape rajoute ce qu'on appelle les clausules. Je vais prendre un exemple sur la croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui est sur la croix, qui nous regarde et qui nous pardonne, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. On peut prendre des attitudes, des gestes ou des versets qu'on rajoute. Mystère, par exemple, présentation Jésus au temple, recouvrement plutôt, et Jésus qui a dit « Je dois être dans la maison de mon Père » est béni. Voilà. C'est une manière de rentrer dans l'Écriture, de contempler le Christ. Voilà. Donc ça peut aider, le pape le conseille, y invite. Le but c'est plutôt de prier bien le « Je vous salue Marie » que d'en dire des cinquantaines, hein. C'est important, on n'est pas dans un concours, on est dans une prière du cœur. Ceci dit, Thérèse de Lisieux le disait, elle avait du mal à prier le chapelet. Elle n'arrivait pas à le méditer. Elle le faisait pour faire plaisir à Dieu, à la Vierge Marie et par obéissance. Il pourra arriver que certaines âmes sont plus à l'aise dans le silence que dans la répétition, la méditation. Voilà, il y en a qui ont une méditation riche, il y en a qui ont une méditation désertique. Mais l'union de Dieu, elle est là quand même. Quels sont les fruits du chapelet? Alors je parlais des protections que la Vierge Marie a données, les grands saints qui la proposent. Le chapelet, on va dire, première, peut-être, je ne les dis pas dans l'ordre, mais garde de l'hérésie. Voyez, Don Bosco, dans un songe, disait les trois blancheurs, la Vierge Marie, l'Eucharistie, le Pape. C'est sûr que la Vierge Marie nous garde de l'hérésie. Hein. Elle nous permet de garder toute la foi, et d'être fils et fille de l'Église. Souvent, quand la dévotion mariale est mise de côté, Et ces derniers temps, on a pu mettre la dévotion mariale de côté, parce que c'est toutes les formes de dévotion populaire, bon, c'est pour les petits gens, donc non, c'est pas ça, il faut de la bonne théologie, bien costaud. Mais en réalité, la dévotion mariale nous amène au cœur de l'Église, au cœur de Dieu, nous donne une confiance filiale au pape, dans les sacrements, etc. Et c'est souvent la dévotion mariale qui peut nous garder dans toute la foi. Dans toute la foi. Hein, c'est comme un carcan, un reste une forteresse. Mais pour cela, il faut aussi entendre le magistère, des fois aussi une dévotion mariale, paradoxalement, hypertrophiée et déconnectée de l'Église, peut nous amener à des hérésies. Normalement, la dévotion mariale garde dans la foi. La dévotion mariale augmente l'ardeur, vous voyez. Elle ne dit pas quelque chose de nouveau. Un prêtre disait, que fait Marie dans les apparitions? Elle prend la Bible, elle prend un stabilo, un fluo, elle souligne. Elle dit rien de nouveau, mais elle met en valeur des versets. En disant, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Le chapelet nous fait rentrer dans un renouveau de confiance, dans une intensification de la prière, une ardeur. Une ardeur à évangéliser, une ardeur à prier avec ferveur de plus en plus. On se souvient de ce qu'avait dit Bartolo Longo, celui qui promeut le chapelet sera sauvé. Voilà. Il y a une grâce de ferveur, de confiance qui est donnée. Je ne parle pas de toutes les grâces qu'on peut demander, Jean-Paul II le propose pour la paix dans le monde. Nos frères et sœurs chrétiens persécutés en ont besoin. Je rappelle que la paix n'est pas un état qui dure. C'est pas vrai. L'homme est pécheur, la paix, la guerre est là, jusqu'à la fin. La paix, c'est un don, c'est le don du Christ ressuscité. Il faut sans arrêt le demander. Et on a demandé cela par la Vierge Marie après Fatima. On a fait tomber le bloc communiste. Donc on peut continuer. Voilà. Le don de la paix. Prière de la famille aussi, Jean-Paul II insiste beaucoup sur le chapelet, peut être prié pour la famille, on a passé un synode, la famille est très attaquée aujourd'hui, on peut prier pour la famille. On peut prier pour les pécheurs, Marie demande cela aussi, pour la conversion des pécheurs, Marie demande cela à Lourdes, prier pour les pécheurs. Et puis on sait le fruit des chapelets, nombreux sont les témoignages, par exemple de ce jeune qui a appris, par exemple, c'est un témoignage, qui un jour a appris que sa fiancée le quittait, à la limite de se suicider, et puis il a eu cette intuition de prier le chapelet. Puis il a pu pardonner. Voilà. Il y a plein d'exemples, même de guérison, d'exemples de conversion, de réconciliation dans les familles, de conversion dans le temps, par le chapelet. Voilà. Chapelet, la prière du pauvre, mais une prière puissante, forte. Ce sera peut-être pour certains, ça peut être la prière de la contemplation, vraiment. Souvent, ce chapelet, à la fin de la doxologie, on a l'oraison jaculatoire, c'est-à-dire, par exemple, « Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont plus besoin de votre miséricorde. » C'est une demande de Dieu, par exemple, qui a été faite à Fatima. On peut en dire d'autres formules. C'est très bien, c'est en plus. Faisons-le si nous voulons. Mais n'oublions pas que le cœur du « Je vous salue Marie », c'est écouter Dieu et contempler Dieu. Ce n'est pas d'abord demander les choses à Dieu. C'est d'abord écouter. Le début de la prière, c'est toujours « Écoute Israël, écoutez. » Voilà. Le chapelet est utile pour la mission. Un prêtre contemporain disait « On n'avance pas assez dans l'évangélisation parce que peut-être qu'on n'avance pas assez dans la prière mariale. Il faudrait plus prier Marie et nous aurions plus de conversion. » Il faut confesser que nous avons peut-être à redécouvrir la prière du chapelet plus fortement et que Dieu a permis sur la paroisse certaines grâces qui sont venues par Marie. Les 8 décembre sont pour nous des dates importantes. Dieu a permis d'entrer l'adoration eucharistique, les fraternités, les reliques de Jean-Paul II à la suite du 8 décembre. Les vitraux de la Vierge Marie sont venus. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent avec la prière mariale. Et puis, comme le disait Paul VI, la grâce de l'unité. Il ne faut pas croire que l'œcuménisme va être diminué, entaché, si nous prions la Vierge Marie au contraire. Et là, on voit le préjugé. Prier le chapelet, prier Marie, c'est péché catholique, fervent fils de Marie, ne doit pas nous séparer de nos frères, mais est un moyen de dialogue, et peut-être même, alors qu'en apparence on dit le contraire, un meilleur moyen de rencontre. Et nous savons aujourd'hui la place de Marie dans le dialogue interreligieux de manière particulière avec nos frères musulmans. C'est vraiment par Marie qu'on découvre le Christ. Voilà. Alors, notre Notre-Dame du Chapelet, du Rosaire, du Saint-Rosaire, donnez-nous d'aimer les roses que nous vous prions. Donnez-nous de prier pour l'Église, de reprendre en main ce chapelet, de le diffuser, de le comprendre avec